Frères et sœurs, au début de l'évangile de saint Marc, que nous lisons donc cette année, on entend Jésus qui prend la suite de Jean-Baptiste. Passage de témoin, et si l'on avait lu quelques versets précédents, on aurait découvert que, en fait, le contenu de la parole de Jésus n'est pas très différent de la parole de Jean-Baptiste. Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche, convertissez-vous et croyez à l'évangile. On pourrait dire quelle différence entre Jean-Baptiste et Jésus. Est-ce que Jésus se contente de succéder à Jean-Baptiste qui a été arrêté? On peut penser ça. Alors Jésus n'est qu'un prophète qui vient à la suite d'un autre prophète. Seulement, si la parole de Jésus n'est pas très différente, elle appelle à la conversion, à accueillir le message de l'évangile, le Messie qui vient, c'est ça que ça veut dire. L'attitude de Jésus n'est pas tout à fait la même. Car on entend que tout de suite après, Jésus, marchant sur le bord du lac de Tibériade, appelle à sa suite André, Simon, Jacques, Jean et d'autres après. On entendait cela aussi dimanche dernier dans l'évangile de saint Jean. Et que leur dit-il? Il ne leur dit pas juste « Venez à ma suite, soyez mes disciples ». Il leur dit « Je ferai de vous des pêcheurs d'hommes ». C'est-à-dire « Venez à ma suite, je vous associe à cette mission de salut des hommes ». Alors on peut s'étonner de ce que Jésus, fils de Dieu, fait homme, s'associe des hommes pour la mission, pour propager l'évangile. Et on sait à quel point les apôtres, 12 au début, propageront l'évangile, puisque si nous sommes là, c'est grâce à eux. Qu'est-ce qu'il faut pour que l'évangile soit propagé, proclamé? Bien sûr, il faut le grand acte de Jésus qui sauve l'humanité en donnant sa vie sur la croix et en ressuscitant. Ça, c'est le centre. Il faut des voix qui proclament cette vérité. Les apôtres, les disciples. Et ça ne suffit pas. On se rappelle que Jean-Baptiste, il criait dans le désert. Il faut des oreilles qui écoutent et des cœurs qui accueillent. Et probablement que Jésus sait, justement, le désir de l'humanité d'accueillir ce grand message, cette bonne nouvelle du salut. L'Église, avec sa sagesse, nous fait entendre un passage du livre de Jonas. Et on découvre Jonas qui est... Rappelez-vous, Jésus s'est comparé à Jonas. Il a dit, vous connaissez l'histoire de Jonas, il y a ici bien plus que Jonas. Et on découvre donc que Jonas va, après quelques péripéties, dont vous vous souvenez probablement, Jonas va à Ninive, qui est une ville païenne, une ville de désordre. Et il n'a même pas le temps de parcourir toute la ville que tout le monde se convertit. Et donc Jonas, qui a pourtant traîné les pieds, découvre que les habitants de Ninive, contrairement aux apparences, puisqu'ils font n'importe quoi, ils agissent mal, ils ne se soucient pas de Dieu, les habitants de Ninive, pourtant, se laissent toucher par le message de Jonas. Ça veut dire que les habitants de Ninive ont soif. Ont soif de quelque chose de plus grand que ce qui est leur vie ordinaire, leur vie de désordre. Et nous, quand nous entendons ça, nous pouvons nous dire, mais c'est vrai, en fait, les hommes et les femmes ont soif de Dieu. Même s'ils ne le savent pas, même si cette soif, elle est un peu cachée. Jérémie disait, la citerne est ensablée. Même s'ils ne le savent pas, au fond de leur cœur, il y a un grand désir. Et dans notre société aujourd'hui, qui semble être quand même pas mal une société de divertissement, c'est comme un peu le leitmotiv, les loisirs, peut-être que justement, tout cela fait oublier ce qui est essentiel pour une vie. Mais l'essentiel, il est... Même si on l'oublie, il est toujours ancré, en fait. Et saurons-nous reconnaître, déjà pour nous, ce qui est la soif de l'essentiel, et surtout pour nos contemporains, saurons-nous discerner leur attente, et non pas juste les juger comme Jonas aurait pu faire en disant, il l'a fait d'ailleurs un peu en résistant au Seigneur, en disant ça sert à rien de parler aux gens de Ninive, de toute façon ils sont bouchés. Et ce n'était pas le cas. Dieu connaît les cœurs. Et donc, est-ce que nous avons soif d'annoncer l'Évangile, d'annoncer le Christ à nos contemporains? Est-ce que nous avons soif de ne pas les laisser errer dans leur vie? Encore une fois, Jésus peut bien, lui, vouloir le faire. Il a besoin de nous pour le faire. Alors, ça me donne l'occasion, parce que justement, on contemple des hommes qui sont appelés à être disciples et qui, pour reprendre l'expression du pape François, ne vont pas être que des disciples. Mais c'est une expression que le pape François emploie depuis le début de son pontificat. C'est pas l'histoire des périphéries. Non, c'est pas ça. C'est des disciples missionnaires. Nous contemplons aujourd'hui dans l'Évangile que Jésus appelle ses disciples pour en faire des missionnaires. Et qu'on ne peut donc pas être disciple sans être missionnaire. Si on n'est pas missionnaire, il manque un élément. Il manque quelque chose qui est de l'ordre de l'être du disciple. Et donc, en contemplant cette soif de Jésus d'envoyer ceux qui le suivent en mission, une fois n'est pas coutume, je vais vous parler de ce que je fais, de ce que je vis cette année, puisque peut-être l'avez-vous appris, j'ai demandé à vivre cette année une formation dans cet esprit-là. Ça s'appelle le parcours Talentéo. J'ai commencé ça depuis le mois d'octobre, et ça me conduit à me rendre à Paris, pas n'importe où à Paris, c'est pas mal, c'est Montmartre, donc comme lieu de formation, c'est bien. Une fois par mois, 48 heures par mois, pour réfléchir, recevoir, avec des confrères, curés de paroisses comme moi, dans toute la France, on a une trentaine, réfléchir et recevoir quelque chose qui, en tout cas des éléments, qui nous réveillent dans l'esprit missionnaire. Enfin, la vraie raison de tout ça, le motif de tout ça, c'est l'état des lieux. Et l'état des lieux, vous êtes capable de le faire comme moi. Si ce que l'on fait habituellement, si notre vie chrétienne consiste à maintenir les choses, à entretenir les choses, eh bien le constat est fait rapidement, nos églises se vident. Et nos églises continuent à se vider, ça fait des années, des décennies que ça se vide. Et on n'a pas inversé le courant, hein. On n'a pas inversé le mouvement. Et donc, il faut réfléchir autrement. Il ne s'agit plus seulement de faire comme on fait d'habitude. Ça ne suffit pas. Sinon, on est en train de, gentiment, de laisser la mèche s'éteindre jusqu'à ce qu'elle fume. Et, allez, je vais le dire, sans méchanceté, sans jugement, mais le prêtre, il n'a pas choisi une vocation de fossoyeur. Et donc, du coup, il ne peut pas se satisfaire en ayant choisi de donner sa vie, en ayant répondu à l'appel de Dieu, de voir les choses juste s'éteindre. Et on est tous pareils, parce que je pense que nous tous, baptisés, on a soif de voir l'Église vivre. Et attention, qu'est-ce que ça veut dire faire vivre l'Église? Ça veut pas dire juste trouver des bonnes méthodes, des bonnes idées, etc. Visiblement, des méthodes et des tas de manières de faire, on en a déployé pas mal et ça porte pas plus de fruits. Et donc, peut-être que le secret, c'est pas juste des méthodes, mais c'est le Christ. De revenir au Christ et de s'attacher de plus en plus à lui, ce que Jean-Paul II disait en disant « Pour que l'Église vive, il faut des saints ». De s'attacher de plus en plus à lui et à partir de là, de faire briller le message de l'Évangile. Et ça, c'est la vocation de tout baptiser. Et ce n'est pas juste la vocation du prêtre. Et donc, dans le cadre de cette formation, de cette réflexion, de ce travail, à la fois sur moi-même, sur la manière de faire vivre une paroisse, etc., dans le cadre de ce parcours, un élément c'est justement de dire il faut associer les fidèles à ce travail. Et c'est pour ça que s'il y a des sessions de formation destinées aux prêtres, il y a dans le courant de ce parcours une session de formation destinée aux prêtres avec des paroissiens. Pour que le mouvement soit le mouvement d'une communauté et non pas le mouvement d'un homme qui essaierait de tirer et ça ne marche pas. Et alors vous trouverez sur la feuille d'annonce, que je vous invite à garder précieusement, les éléments sur ça, et notamment la date de ce temps de formation, qui sera un week-end en mars, le 16 et le 17 mars, où je suis invité par nos formateurs, qui d'ailleurs, il faut le remarquer parce que c'est intéressant, c'est ça qui m'intéressait même particulièrement, ceux qui mènent ce parcours ne sont ni des prêtres ni des évêques. Ce ne sont que, mais entre guillemets bien sûr, hein, ce sont des laïcs, des chrétiens engagés, qui ont soif de former des prêtres. Pour moi, c'est ça la vraie synodalité. Et du coup, l'invitation est faite aux prêtres qui se forment d'emmener avec eux des paroissiens pour un week-end de formation, de réflexion, de partage, les 16 et le 17 mars. Et donc je fais cette proposition dans l'homélie aujourd'hui, de dire ceux qui veulent être associés à cet élan pour renouveler la vie de nos paroisses et la rendre davantage missionnaire, eh bien, je vous emmène à Paris. Pour les modalités pratiques, etc., c'est jamais un problème. Ça, c'est, le côté pratique, ça se règle toujours. Ce qu'il faut, c'est l'envie. Et pour vous faire découvrir à la fois ce qui va se vivre dans ce week-end du 16 et 17 mars, mais aussi un peu ce qu'est l'esprit de cette formation, début février, le mercredi 7 février, il y aura une vision qui sera organisée à l'échelle de toutes les paroisses dont des curés sont en formation cette année, assez large, couvrant la France entière, une visio sur ce parcours talentueux. Ce sera ici, à Saint-Charles, le mercredi 7 février au soir. Ça n'engage à rien, vous êtes juste invités à venir. Et puis, si ça vous donne envie de venir à Paris, bah, tant mieux. Et puis, si juste ça vous donne la joie de découvrir quelle est cette formation, ce parcours que suit votre curé, bah, tant mieux aussi. Et voilà. Et en fait, derrière ça, l'objectif, c'est de redynamiser la vie paroissiale sans se contenter juste à la fois d'inventer des méthodes, des tactiques et des choses comme ça. Ça ne marche pas. Sans se contenter non plus de dire c'est de la faute à machin, c'est de la faute à celui-ci, c'est de la faute à l'église ou quoi, parce que ça, c'est une manière de se disculper et de ne pas comprendre quelle est notre part, à quoi nous sommes attendus. Non, non, c'est juste de se lever et de dire, au nom du baptême, au nom de cette vie que le Christ a mis en moi, je désire être, non pas seulement disciple, mais disciple missionnaire. Et j'aimerais, et vous pouvez même déjà prier pour ça, hein, c'est peut-être là que ça commence, c'est sûrement là que ça commence. J'aimerais que la vie de la paroisse passe d'un état d'entretien à un état de mission. Alors l'Église sera vivante. Alors nous participerons à la vitalité de l'Église. Amen.